Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial sur le jardin dans la ville, la belle rencontre avec Antoine Aubinet, architecte cofondateur de l'agence Bellastock, puis le sujet qui fâche, sauvons les jardins d'Aubervilliers, avec Dolores Mijatovic, jardinière, et Yvan Fouquet, architecte.
Urbanité, l'édito.
Prendre de la terre avec sa main, la humer, la modeler, l'effriter, la laisser glisser entre les doigts, l'épousseter, afin d'effacer toute trace brune ou ocre, se dire que ce contact est puissant, qu'il évoque l'argile de la création. Adama, en hébreu, donnera Adam, le premier homme qui, ne l'oublions pas, vivait nu dans un jardin. Saisir délicatement une fleur sur sa tige, l'attirer vers son visage, la caresser avec sa peau, s'imaginer devenir jaune au contact d'une jonquille, orange au touchant un souci, mauve en cueillant du lilas, se sentir parmi les siens en s'allongeant sur l'herbe ou en s'agrippant à une solide branche d'un arbre. Écouter le cœur de la nature battre à son rythme, épouser la fine rosée qui perle sur les feuilles, se laisser envahir par l'ombre du sapin ou du cerisier. Être à l'arrêt, mais en éveil, et sursauter au moindre froissement qui déchire le silence, au moindre chointement qui fait vibrer l'univers. Se dire qu'un jour, on ne verra plus ces mystères, mais que certainement les enfants de nos enfants s'étonneront des fleurs qui abandonnent la place aux fruits, du bourgeon qui s'éparpille en un feu coloré, des pétales qui éclaboussent de senteurs l'air qui les parcourt. La nature est un spectacle ininterrompu que le jardin magnifie en l'isolant du trop-plein du monde. Nous voudrions tous mémoriser pour ne rien oublier lorsque nous quitterons les vivants de départ inexplicable. Cette absurdité qu'un Camus a si bien dénoncée fait aimer davantage encore le généreux soleil de la Méditerranée, la douceur chaude et ronde des rochers, l'odeur envahissante du figuier, la clarté franche et sincère de la lune, la cadence insolite des mouvements de la mer et toutes les surprenantes manifestations obstinées de la vie, les insectes et les lézards, les oiseaux et les rongeurs, les plantes et les arbres, les roseaux et les bambous. Le mot de communion n'est pas trop fort. Camus, lui encore, parle bien de noces pour qualifier la relation si ténue entre l'humain et le vivant. Ce qui engage l'un à l'autre, c'est le temps. Tout jardin est un atelier d'horlogerie. Bien sûr, le promeneur ne perçoit pas les rouages dentés, les mécanismes réguliers qui sont comme intégrés à chaque processus naturel. Pourtant, le jardin s'avère la métaphore de l'enchevêtrement des temporalités désaccordées. Chaque espèce protège les étapes de son développement. Chaque habitat, au sens de niche environnementale, dispose de sa propre horloge biologique. Entendez-vous carillonner les fières fleurs qui s'ouvrent à la lumière ? Non, le jardin est discret, il est clos, en position de repli, afin de mieux résister aux assauts répétés du temps des humains, qui vient perturber le temps du vivant. Éternel combat entre le naturel et l'artificiel, le donné et le produit, direz-vous. Combinaison changeante, répondrai-je, lieu de méditation, de repos, mais aussi d'un labeur sans calcul. Le jardin réclame beaucoup d'attention et offre la paix de sa chorégraphie invisible. Le mot « jardin » désigne un enclos, il vient du latin hortus, qu'on retrouvera en français dans horticole, horticulture et même hortensia, mais sera supplanté par gardinus, terme signifiant clôture, qui donnera garten en allemand, gart puis jart puis jardin en français et garden en anglais. C'est donc la parcelle fermée qui exprime l'idée du jardin, sorte de petite île de verdure protégée de l'agitation de la société urbaine par un muret de pierre ou une grille rafistolée. Les jardins sont expressifs. Ils nous indiquent qui s'en occupe, mais aussi qui s'en préoccupe. Dans la banlieue populaire où je réside, les jardins sont de plus en plus fréquemment donnés en pâture à l'automobile. Elle écrase les herbes folles ou mauvaises, deux qualificatifs qui justifient pleinement une intervention drastique d'un puissant désherbant aux effets dévastateurs, et pollue définitivement cet ultime petit coin de verdure. Heureusement, d'autres jardins, désordonnés, adopte une attitude faussement d'abandon, avec des pots éventrés, des tuteurs rouillés, un tonneau mal assuré qui récupère l'eau de pluie, un petit banc bancal, des herbes aussi hautes que les fleurs, un carré de salade et une touffe de rhubarbe. Mais le jardin urbain correspond de moins en moins à celui de notre enfance. Il est inondé de bruits mécaniques, ses plantations sont dopées, pire que des coureurs cyclistes, sa distribution ressemble à une image publicitaire d'une quelconque jardinerie, et l'on y ressent peu la saisonnalité du vivant. Le jardin urbain n'adhère plus à la diversité bioclimatique et se trouve victime du dérèglement des climats. Des espèces animales vont disparaître. On parle de 9000 espèces d'oiseaux, 5000 sont en déclin et 1000 peut-être même en voie d'extinction. Et puis de même pour les espèces végétales qui migrent d'une région à une autre lorsqu'elles ne sont pas menacées de disparaître avec leur écosystème. Les paysages se transforment aussi par cette nouvelle géographie de l'acclimatation, des hybridations et de l'artificialisation des cultures et des élevages. À peine mesurons-nous les effets du déploiement technologique et de la généralisation de nos modes de vie sur la nature qu'il nous faudrait impérativement y réagir. Notre croyance en la technique est telle que nous ne considérons pas grave la perte de savoir-faire économe en eau, par exemple. Le jardin, clos, est dorénavant ouvert. Des community gardens du Canada aux États-Unis des années 70, aux jardins partagés du début du XXIe siècle en passant par les jardins associatifs, communautaires, solidaires, citoyens, de réinsertion, le jardin dorénavant ne signifie plus la fermeture, l'enclos, la protection, mais la solidarité, la liberté et la créativité. En ceci, il s'ouvre au monde et à toutes les expérimentations. 100 ans plus tôt, dans la ville charnelle, Marinetti, pas encore futuriste, se laisse aller à une sorte de symbolisme revisité. Je le cite. « Les jardins cachotiers de la ville charnelle emmitouflèrent mon corps brisé. Ils étaient adorables, accueillants et paisibles, tout trempés d'ombre bleue et ventilés suavement d'haleines capiteuses de miel et de jasmin. Ô cèdres parfumés aux fruits étincelants, orangers, acacias, dont l'odeur sexuelle me griffe et me caresse d'un plaisir angoissé, je viens à vous et je pénètre dans la béatitude de vos ombrages complaisants. » Qui peut rester insensible à un jardin? Qui peut rester sourd à ses confidences? Qui ne s'accorderait pas à ses pulsations végétales? Tout jardin appelle la paix et la patience.
Urbanité, la belle rencontre.
Antoine Aubinet, tu es architecte, formé à l'école de Paris-Belleville, et tu cofondes Bellastock en 2006. Comment présenterais-tu cette société coopérative d'intérêt collectif ?
Donc, Bellastock, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Quand on a commencé, on était étudiants à l'école d'archi de Paris-Belleville. On manquait terriblement de pratique. Il nous manquait le contact à la matière, le contact au territoire. Donc, on a créé un exercice assez simple. C'était la création d'une ville éphémère avec nos camarades de classe. Mais l'exercice proposé était assez innovant dans le cadre d'une école. On proposait de concevoir, construire, habiter son projet, puis le déconstruire. Tout ça en 4 jours. Donc on a créé des villes éphémères. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans ce que porte la coopérative, c'est qu'il y avait déjà toutes les graines de ce qu'on défend aujourd'hui. Premièrement...
C'est un jardin alors?
C'était une fois, on a créé notre propre jardin de liberté et de créativité à côté de l'école. Si on regarde comment ça influence nos projets aujourd'hui, il y a l'idée que ce que l'on construit va être déconstruit, donc je dois travailler sur comment les matériaux circulent, quel type d'assemblage je vais mettre en œuvre pour qu'un matériau ait plusieurs vies. Ensuite, l'idée que les gens vivent dans leur structure et puissent faire évoluer leur structure. Ça, c'est l'idée qu'une personne qui utilise un lieu puisse donner de l'information à un architecte et qu'il faut que l'architecte ait une forme de flexibilité pour que son projet s'adapte dans le temps aux personnes qui le vivent. Et enfin, la dimension sociale, festive, conviviale qu'il y avait dans le festival. Quand on porte un projet commun, eh bien, il y a cette dimension de création d'une communauté, le lien social que l'on peut créer via un projet. Et donc, le festival, qui est la colonne vertébrale de Bellastock, a développé des expertises, celle du réemploi, on va peut-être en parler après, l'urbanisme de transition, donc comment est-ce qu'on fait aussi avec les habitants, la formation, ce festival qui était au début un lieu pour pouvoir s'exprimer, bien ça a commencé à faire parler de lui auprès du ministère de la Culture et des écoles d'archi, qui se sont dit, c'est peut-être une nouvelle manière aussi d'enseigner, et puis des études et recherches que l'on porte pour faire évoluer les politiques publiques, et puis porter ce message de l'attention aux ressources et l'attention aux gens.
Alors, effectivement, il faut nous en dire un peu plus sur le réemploi. De quoi s'agit-il ?
Alors, le réemploi, donc on a commencé dès 2012. C'était notre première expérience. On suit la déconstruction des hangars printemps sur l'île Saint-Denis. Et on a essayé de décortiquer tous les mécanismes. Alors, habituellement, on démolit. Et là, l'objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on déconstruit sélectivement le bâtiment de manière à l'élémentariser et pouvoir remettre dans le circuit certaines parties du bâtiment. L'intérêt que ça a le réemploi, c'est qu'on ne redépense pas la même énergie, parce que le recyclage, on rebroie la matière. Et donc finalement, on est en train de perdre l'énergie qu'on a dépensée pour créer chacun de ces éléments. Aujourd'hui, après cette expérience, on a travaillé donc sur des projets d'ANRU. Comment est-ce que la déconstruction de certains bâtiments et l'aménagement de futurs espaces publics, comment est-ce qu'on peut créer une bascule et ramener ces matériaux pour dessiner et imaginer les espaces publics. Comment est-ce que la matière qui reste sur place, c'est aussi un formidable levier économique pour le quartier, les gens qu'on embauche pour retravailler la matière, la rénover, lui permettre d'être remis en œuvre. Donc ça, c'est plus à l'échelle d'un quartier. Puis là, dernièrement, on a travaillé sur métabolisme urbain avec pleine commune. Donc l'agglomération se rend compte que chaque année, c'est 1 million de tonnes de matériaux qui est évacué en déchets, la même quantité achetée en matériaux neufs. Aucune plus-value pour l'agglo. Et donc l'objectif, ça a été de trouver les filières, diagnostiquer des sites de déconstruction, connaître les sites en construction et travailler à la synergie de chantier, tout en faisant en sorte que l'agglo soit riche de cette idée de refaire la ville sur la ville avec des emplois qui sont locaux. Et puis enfin, il y a l'échelle européenne. On vient de finir FCRBE qu'on a monté avec Rotor. Donc c'est Facilitating Circulation of Reuse Building Element. Là, c'est comment est-ce que sur la Belgique, le nord de la France, le sud de l'Angleterre, on travaille à la massification du réemploi. Donc on a repéré 800 acteurs du réemploi en France. On les a ciblés, on a regardé quel type de matériaux. Ils le faisaient depuis très longtemps. Donc c'est aussi mettre en valeur ces personnes qui sont un peu invisibles, mais qui font du réemploi au quotidien depuis longtemps. Et puis échanger nos outils avec des acteurs d'autres pays pour faire évoluer nos pratiques.
Alors, est-ce qu'on peut tout réemployer ou il y a des choses qu'on est obligé de mettre de côté, de jeter,
C'est d'abandonner. Plus facile, c'est sûr que c'est plus facile de réemployer de la pierre, plus facile de réemployer des briques. Il y a certains matériaux qui, de fait, si l'assemblage, on en parlait en introduction, a été fait à sec, c'est plus facile de récupérer l'élément et on lui donne facilement une seconde vie. Si on part sur des matériaux peut-être plus récents, industriels, qui contiennent de la colle, qui contiennent du plastique, c'est tout de suite plus délicat, parce que l'élément étant collé, on se retrouve avec une agglomération de plusieurs matériaux et c'est plus difficile. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est s'interroger sur la question du béton. Ça fait que 50 ans qu'on bétonne, donc qu'est-ce qu'on peut faire de ce matériau et comment le réemployer ? Donc c'est un des challenges que Bellastock essaie de relever, mais difficile.
Oui, c'est pas facile, ça, j'imagine. Pas facile. Ouais. Bon, tu parlais tout à l'heure d'urbanisme de transition. Sur le site de Bellastock, où il y a très longtemps, ça s'appelait l'urbanisme transitoire. Oui. Alors, comment on passe du transitoire à la transition, c'est pas mal, ça me plaît bien, ça, cette transformation.
C'est vrai que ça paraît être simplement un mot, mais pour nous, il a beaucoup de sens chez Bellastock. C'est ce qui était considéré comme l'urbanisme transitoire, c'est comment est-ce qu'on occupe la vacance et on essaie de trouver une activité en attendant un projet qui va atterrir sur le site. Parfois, et c'est bien le reproche qu'on peut faire à certaines opérations d'urbanisme transitoire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le projet que l'on souhaite. On ne fait pas rentrer d'informations de la phase transitoire et c'était juste une phase d'animation pour faire vivre un lieu, parfois faire monter le prix du mètre carré, sans qu'il y ait une vraie plus-value sur le projet urbain. Donc ce qu'on défend en tout cas chez Bellastock, c'est que dans cette période de transition, on demande et on impose que certaines données que l'on va faire émerger pendant cette phase de transition puissent atterrir dans le projet urbain. En gros, je m'explique, on arrive sur un territoire, on cartographie les acteurs, les structures en place, on les interroge sur leurs besoins, ça nous crée des cahiers des charges qui vont nous permettre de travailler sur des espaces du projet avec ces mêmes structures. On va tester des usages avec des structures temporaires ou du moins on va se permettre l'expérimentation. Et puis on va faire un cahier de préconisation et c'est là où on attend que l'urbaniste soit assez ouvert pour intégrer ces données de manière à ce que dans le projet urbain final, il y ait des informations qui viennent des gens du territoire. Et c'est bien en ça qu'on parle d'une transition aussi parce que on aime bien que la dimension de réemploi et de circulation des matériaux soit accompagnée d'un travail de sensibilisation autour de la transition écologique.
Oui, c'est ça. Le mot transition, ça renvoie à la transition écologique, bien sûr. Ouais. Oui, parce que bon, le mot urbanisme, comme tu le sais certainement, est un mot que je critique beaucoup, oui. que je considère un peu toxique. Pour moi, l'urbanisme, c'est le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville productiviste. Mais c'est pas facile à substituer un autre terme. Hein. J'évoquais le ménagement des possibles à l'université d'été des urbanistes. Bon, ils m'ont pas suivi. Hein. Bon, ils restent
bandicus des urbanistes. Ménager.
Non, mais ce que tu veux nous raconter, c'est quand même très important, c'est que la question du réemploi, oui. qui pourrait être associé à un objet architectural, un bâtiment, une construction, en fait, vous l'intégrez tout de suite à quelque chose de plus ample, qu'on pourra appeler l'îlot, le quartier, ou même la ville.
Bah c'est là où il prend un intérêt. Alors il y a des projets que l'on a fait où on intègre du réemploi, mais là où il prend vraiment plus de sens, c'est à une échelle plus large où on arrive à analyser les filières en place. Alors certaines on les réactive, certaines on s'appuie sur l'existant, finalement c'est ce qui permet aussi que d'un point de vue urbain, d'utiliser le terme, mais du moins qu'on ménage à une échelle un peu plus grande les filières existantes et qu'on arrive à ce que ça crée une plus-value et une montée en compétences qui soit locale. Ça relocalise la question de la construction. Et on le rend visible. C'est aussi une action qu'on s'est donnée. C'est arrêter de cacher la construction de la ville, ouvrir et rendre plus poreux le chantier et donner à voir les matériaux qui sont là. Par exemple, à Nantes, on a récupéré toutes les pierres d'une caserne militaire. On a pris le terrain de foot des militaires. On a mis tous les stocks de matériaux. On l'a scénographié. On a mis des chaises d'arbitre de tennis où on peut comprendre que cette pierre était un soubassement d'une fenêtre et va devenir une borne pour garer un vélo. Et on essaie d'expliquer et de montrer et de donner à voir les matériaux et l'histoire aussi d'un site qu'on essaie de conserver.
Les pierres sont vivantes.
Oui, complètement.
Ça, c'est très important. Quels sont les chantiers en cours de Bellastock ?
Les chantiers en cours, là, on rattaque un projet européen pour continuer à défendre la question du réemploi à l'échelle européenne. Là, moi, je travaille en ce moment avec Louise sur la cité Youri Gagarine à Romainville, où il y a un renouvellement urbain également. Il y a tellement de projets, on a une quinzaine en cours. On est maintenant 15 collaborateurs.
Ah oui, donc ça.
Donc j'arrive pas à te faire un éventail complet.
Ça tourne, c'est bien.
Ouais, c'est chouette.
Bon. Alors, tu as également créé le Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine. Ouf, hein, le CAPP en 2018 à Évry-Courcouronnes. Oui. De quoi s'agit-il ?
C'est ce que je disais en introduction. Le festival a commencé à se faire connaître aussi dans les écoles. Et donc, le ministère de la Culture est venu chercher Bellastock en nous disant, il y a des enseignants dans les écoles en Île-de-France qui regrettent l'époque où ils partaient expérimenter aux grands ateliers de l'île d'Abo, en Rhône-Alpes. Comment est-ce qu'on peut inventer des ateliers d'expérimentation échelle 1 pour l'Île-de-France ? Donc le ministère nous missionne, ça fait 3 ans qu'on développe le projet. C'est assez complexe parce que il y a 6 écoles d'architecture, bientôt il y aura des écoles d'art, des écoles de paysage, il y a une agglomération, la ville, et on essaye de faire atterrir sur Évry-Courcouronnes un lieu, donc on est en bord de Seine, c'est 11 hectares de bois avec une ancienne maison qui appartenait à des bonnes sœurs, et l'objectif c'est de, à la fois que ça soit une école pour expérimenter, pour apprendre par le faire, c'est aussi ce qu'on a remarqué avec les 16 ans qu'on a passé à mettre les mains dans le cambouis, c'est qu'on n'était pas forcément des écolos de la première heure, mais à force de construire par nous-mêmes, de tester la matière, d'être avec des gens sur des lieux, tu finis par avoir développer une forme de sensibilité. Et donc, bah, tout ce processus qu'on a eu, est-ce qu'on pourrait pas en faire profiter les étudiants en architecture et leur faire apprendre en construisant dans cette école à ciel ouvert. L'objectif, c'est que ça soit pas qu'une école fermée sur elle-même, mais qu'on travaille aussi sur le territoire d'Évry-Courcouronne, qui a aussi une histoire autour de l'expérimentation qui est assez intéressante depuis les années 50, si je dis pas de bêtises. Et comment est-ce que aujourd'hui cette dimension d'expérimentation peut venir au service de cette ville? Et comment est-ce qu'on peut ramener l'échelle humaine, la convivialité aussi sur ce territoire en utilisant cette école qui travaille aussi sur son lieu d'implantation.
Alors Antoine, malheureusement notre conversation va se terminer. Quel est le thème du prochain festival qui est en juillet si je me souviens bien?
Oui, c'est ça. Donc c'est du 14 au 17 juillet. On vous invite à venir le 16 juillet sur place. Ce qu'on a proposé à la ville d'Évry-Courcouronne, c'est pour lancer cette école, on va faire 3 festivals sur place. L'année dernière, on a fait s'implanter. Comment arriver sur un lieu en respectant le vivant et en ayant conscience des saisonnalités, des ressources, de son impact sur le sol. Cette année, on travaille sur s'outiller. Et d'ailleurs, tu es intervenu dans une conférence, Thierry, pour justement de quels outils a besoin une école, quel est l'outil qui émancipe, quel est l'outil qui devient contraignant, comment est-ce qu'on fait projet ensemble parce qu'on a choisi les bons outils. Et l'année prochaine, on travaillera sur s'ouvrir, c'est le moment où l'école s'ouvre sur son territoire et on ira travailler sur le territoire d'Évry-Courcouronne.
Ben, c'est un magnifique programme. Merci Antoine.
Merci.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Sauver, sauvons même hein, les jardins d'Aubervilliers. Avec le Grand Paris Express et ses nouvelles gares et les Jeux Olympiques de 2024 et ses installations sportives, la région parisienne connaît d'imposants changements et travaux, tant au niveau des infrastructures qu'à celui de la composition sociologique des quartiers, de leur densité et de l'artificialisation des sols. Grand Paris Aménagement supervise ces opérations urbaines qu'il présente toujours comme étant écologiquement vertueuses, bien sûr. Or, la ZAC du fort d'Aubervilliers devrait, sur 36 hectares, accueillir 1800 logements, des commerces, des activités, une piscine d'entraînement olympique, un spa, un solarium et une gare. Bien sûr, il s'agit d'éco-quartiers. Pourtant, ce projet est contesté par une opposition citoyenne qui dénonce le saccage des jardins ouvriers et le mépris pour la biodiversité. Dolores, alors, qu'est-ce qui se passe à Aubervilliers ?
Eh bien, Aubervilliers, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on a parlé de réemploi, on a parlé de transition. À Aubervilliers, c'est de destruction. C'est-à-dire que là, à Aubervilliers, tu as du béton qui vient détruire du vivant. Et on est un certain nombre d'habitants à habiter dans la proximité des jardins ou à avoir un jardin, comme moi, et une parcelle de jardin ouvrier aux vertus. On est un certain nombre à avoir constitué un collectif et à s'être mobilisé depuis un an et demi pour dire ce dont tu viens de parler, le solarium, le spa, le village finlandais, qui devaient être sur 4000 m² de jardin, et ben nous, on n'en veut pas. Parce qu'on peut faire autrement. On peut réemployer, on peut aussi construire différemment. On avait proposé dès le début que tous ces équipements soient sur le toit de la piscine d'entraînement olympique. On n'a pas été suivi, on n'a pas été entendu. Il y a un an et demi, on a fait avec Yvan et d'autres du collectif un cahier jardin où on a expliqué que le SDRIF, l'autorité environnementale, le couloir de biodiversité, le noyau de biodiversité primaire, tout ça, ça pouvait pas être compatible avec 4000 m² de destruction du jardin. et au-delà, hein, parce qu'il y a d'autres projets de destruction derrière. Et on nous a un peu pris pour des fous, en fait. On nous a dit, mais vous vous opposez à Grand Paris Aménagement, vous vous opposez à l'État, vous gagnerez pas, c'est pas la peine, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les journalistes sont beaucoup venus nous voir, on a beaucoup parlé de nous, je pense que il y a peu de monde maintenant qui ignore ce qui se passe au Jardin des Vertus. Donc on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup mobilisé, on a aussi employé les moyens juridiques parce que on n'a pas le choix, il faut contester en justice. Et puis, miracle, enfin pas miracle, aboutissement de cette année
oui,
et demie
plutôt,
de lutte.
Voilà.
Ouais, plutôt, miracle, non, pas ça. On vient de gagner en fait, on vient de gagner. Et c'est une immense victoire. C'est une immense victoire qui nous remplit de joie. Et en face de nous, franchement, j'espère qu'ils ont honte, quoi. Parce que le juge a repris tous nos arguments. Tous les arguments qu'on avait donnés pour dire on peut pas construire sur les jardins à l'époque où on est. On peut pas détruire des jardins. Faut faire autrement. On peut toujours faire autrement. Il n'y a pas d'obligation à détruire. Et le juge a tout repris. Et dans le mépris dans lequel ces gens qui ont du pouvoir et de l'argent... Le mépris qu'ils ont pour nous, parce que Hanotin, qui dirige Pleine Commune, dit de nous que nous sommes des écolos djihadistes. Donc voilà, tu vois, ça, c'est un joli terme, ça, écolo djihadiste. Et dans ce mépris qu'il a de nous, et ben maintenant, quelque part, on lui renvoie un message très fort en lui disant, voilà, les habitants qui se sont mobilisés, et ben on a gagné. Vous n'allez plus pouvoir faire ce que vous allez faire. Et ils nous méprisaient tellement que quand on a gagné sur le PLUI, qu'on a fait tomber le PLUI, je sais plus le terme exact, on a invalidé le PLUI, le juge a dit non, vous ne pouvez pas détruire les jardins, il faut les sanctuariser. Vous ne pourrez pas faire la zone, il y a une zone d'urbanisation mixte qui était prévue, derrière les 4000 m² qu'ils ont déjà détruits. Hein. Ça, il a dit non, il n'en est pas question. Vous ne le ferez pas. Et il a dit, ce que vous avez déjà détruit et ce que vous prévoyez de détruire pour faire la gare, parce qu'il faut faire une gare, vous devrez le faire avec le strict nécessaire. Donc du coup, ils se sentent tellement au-dessus des lois que quand on a gagné, ils ont continué à construire. Ce qui était quand même une hallucination. Ils se sont même mis en équipe postée, en fait. Ils travaillaient plus jusqu'à 17h, mais jusqu'à 22h. Le chantier, il était, mais à fond, quoi. À fond, à fond, fallait construire. Du coup, on a dû faire des choses que la loi n'autorise pas, c'est-à-dire bloquer le chantier, aller s'enchaîner, aller en garde à vue, etc. Et aller faire un référé en urgence, donc déposer avec notre avocat pour dire « on a gagné ». Le permis de construire n'est plus valable, vous devez arrêter. Et on a gagné. Et le juge a dit, arrêtez, vous arrêtez de construire. Donc voilà, c'est un message, je trouve que c'est un message d'espoir. Quoi.
Bah évidemment, on va revenir un peu dans l'historique quand même. Ouais. Yvan Fouquet, donc, tu es architecte, tu es diplômé de l'école de la Villette, tu es aussi diplômé en philosophie, tu es le cofondateur de FAIR, FAIR, fabrique d'architecture innovante et responsable. Alors, quand est-ce que tu interviens à Aubervilliers? Comment tu as été sensibilisé à cette question des jardins du fort?
Je suis intervenu au début, en fait, enfin, au début de ce qu'on peut appeler une lutte ou hein, quelque chose qui fâche, mais qui fâche pas vraiment, parce que, enfin bon, ça, on va revenir là-dessus. En fait, les jardiniers avaient reçu très peu de temps avant le début des travaux un plan d'installation de chantier, en fait, un plan qui était illisible pour des jardiniers qui étaient là. Et un des jardiniers que je connaissais m'a dit, mais regarde, si tu peux regarder, parce qu'il y a ce projet de piscine qui arrive. A priori, il y a de la place à côté des jardins. Il y a un grand parking qui devrait suffire en fait pour cette piscine. Et pourtant, ils vont détruire une vingtaine de parcelles. Enfin, avant l'automne, en fait, les jardiniers doivent partir. Donc, on me demande de regarder ça. Je regarde et puis effectivement, je vois que la piscine, c'est une piscine d'entraînement olympique, donc 50 mètres de long. Mais malgré tout, le parking était suffisamment grand pour pouvoir faire entrer cette piscine. Et on découvre, on rentre un petit peu dans le projet, qu'en réalité, ce projet de piscine était une sorte de cheval de Troie pour chasser les jardiniers, pour effectivement aménager toujours plus, en fait, gagner des terrains à construire et venir construire donc un solarium aussi, qui était une sorte de prétexte pour prolonger la piscine et la faire plus longue. Et donc vraiment détruire, enfin, s'approprier ce foncier et détruire les jardins et chasser les jardiniers. Donc là-dessus, on a proposé des choses. On a été voir les Grand Paris Aménagement, la sous-préfète de Saint-Denis, etc. Et on s'est rendu compte aussi que ces jardins étaient protégés par le SRIF, le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui protège une partie du fort d'Aubervilliers, une couronne boisée et 7 hectares de jardin. Et là-dessus, on a dit, on a un bon argument juridique pour attaquer. Ce que Dolores a expliqué, donc on a commencé à attaquer il y a un peu plus d'un an maintenant, et donc effectivement on a réussi à faire à la fois tomber le PLUI et le...
Alors on va revenir un peu en arrière, si Dolores veut bien nous raconter un peu, en remontant à Adolphe Thiers.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'il fait, ça, Adolphe Thiers?
En fait, ces jardins... Alors, je suis pas la spécialiste dans le collectif de l'histoire, elle est pas là.
Non, mais bon, il y a la fortification.
Mais il y a les fortifications, 1841, voilà, 45. Voilà. Il y a rien à l'époque. Voilà. Avec le fort, c'est morne plaine, quoi. Le fort émerge. Il y a pas du tout, est pelé. Il y a pas du tout d'arbres. Et puis petit à petit, la végétation va s'installer. Il faut savoir que ce fort là, il est construit sur une grande plaine maraîchère qui produit des légumes depuis le Moyen-Âge, en fait. Donc c'est
Courtil qu'on retrouve localement.
Tout à fait, Courtil. C'est pour ça que les courtilières, les immeubles qui sont construits juste de l'autre côté des jardins, à Pantin, hein, parce que les jardins sont en face de Pantin, s'appellent courtilières. Ils ont été construits sur des jardins. Et donc au début vers les années 1920, les jardins couvrent des hectares et des hectares autour du fort. Et en 1935, l'asso qui gère actuellement les jardins va être créé. Donc c'est une très très vieille association.
L'association des jardins ouvriers des vertus.
C'est même pas association, c'est société des jardins ouvriers des vertus.
Les vertus, pourquoi ?
Ça s'appelle les vertus parce que cette fameuse plaine maraîchère, c'est la plaine des vertus. Tout à l'heure on parlait de miracle. Il y a eu un miracle dans le coin. Il pleuvait pas, il a plu. Et il y a une église au centre d'Aubervilliers qui s'appelle l'église Notre-Dame des Vertus.
D'accord.
Et voilà, c'est une histoire de miracle de l'eau. Et du coup, la plaine s'appelle...
Comme quoi, la toponymie est essentielle, hein, contrairement à ce qu'on pense, j'imagine, le Grand Paris Aménagement.
La plaine des Vertus, oui, s'étendait le nord-est de Paris. Oui, c'était une immense plaine maraîchère.
Bon, là, ces jardins ont quand même été grignotés, Dolores, entre 60 et aujourd'hui.
Les courtilières sont devenues des habitations, enfin des immeubles, et c'était des jardins. Mais dans les années 50, il y avait encore beaucoup, beaucoup de jardins. Je me souviens plus de la superficie exacte, mais c'était encore très, très grand. Et puis petit à petit, c'est grignoté de plus en plus. Et là, il nous reste en tout 2,25 hectares, nous, les vertus. Et dans la continuité, les jardins de Pantin, presque 5 hectares. Donc tu vois, ça fait un très très grand espace qui fait presque 7 hectares et qui est vu, je pense, par les aménageurs comme un potentiel incroyable. C'est à 2 stations de métro de Paris.
Alors là, on est vraiment étonné quand on lit les documents que votre association a produits sur la biodiversité.
22 espèces d'oiseaux protégées, c'est quand même incroyable. Il y a une biodiversité incroyable.
Le hérisson d'Europe.
T'as le hérisson d'Europe, le grillon d'Italie. Et puis t'as des choses pas protégées qui vivent là. T'as des renards, plein.
De petits renards.
Voilà, t'as des renards.
Des mulots, des musaraignes.
Bien sûr, tout ça.
Ça, c'est super bien.
On a aussi des chats.
Je reviens non pas à d'autres animaux, nous, les humains. Comment ont-ils été mobilisés pour ce combat-là? Comment ont-ils été sensibilisés par vous deux, entre autres, hein,
On est beaucoup, hein, on n'est pas que nous deux. Je crois qu'il faut venir au jardin, une fois qu'on vient au jardin. En fait, notre idée de départ en septembre 2020, quand personne ne savait ce qui allait se passer aux vertus, et quand nous, on cherchait comment on allait lutter et défendre cette terre, en fait, ce vivant, pour pas que ce soit détruit. On s'est dit, c'est tellement beau ici, il faut ouvrir, quoi. Et donc, du coup, on a ouvert, on a fait des visites. Et c'est comme ça qu'on a amené à nous beaucoup de personnes du quartier et de personnes
Antoine
plus loin.
Antoine de Blastock, voilà. Ouvrir.
Antoine, faut ouvrir. On a ouvert et ceux qui sont venus sont restés mais émerveillés. Et après, une fois qu'on a vu les jardins, on n'a qu'une envie, c'est de les défendre.
Et si on se remet dans le contexte de l'été, enfin l'automne 2020, on sortait de 4 mois de confinement,
oui.
En fait.
En plus,
à
oui.
L'époque, on sentait que ce besoin de nature en ville, en fait, était comme quelque chose d'essentiel. Et d'où aussi cette mobilisation qui a été très, très large dès le début.
Mais ce qui est passionnant dans vos documents, c'est qu'on voit très, très bien à un moment donné, sur l'emplacement de la piscine et du parking, pour montrer qu'on peut faire tout tenir dans une parcelle plus petite et donc épargner les jardins, vous prenez quand même carrément la piscine olympique de Barcelone ou celle d'Athènes, et puis vous la mettez là et ça colle parfaitement.
Et ça rentre.
Quels sont les arguments qu'on vous avait opposés à l'époque ? Pour vous dire, elle sera plus grande, il y aura un spa en plus, un solarium, je ne sais pas quoi.
C'est des arguments terribles, hein, si je vais les donner. Il y a la chargée de projet de la ZAC qui a dit que c'était un très très bel équipement et que ça allait amener une pacification dans le quartier. Voilà, donc je te laisse... pacification, je trouve que c'est un terme extrêmement violent, en fait. Ça sous-entendrait qu'on serait des sauvages, quoi. Nous qui habitons autour, faut venir nous pacifier. Voilà, après, les arguments qui sont repris régulièrement, c'est de dire, les enfants ont besoin d'apprendre à nager, ils se noient, en Seine-Saint-Denis, on se noie, et on a besoin d'une piscine. Alors après, nous, on dit, est-ce que c'est cette piscine-là dont on a besoin ? Surtout que c'est une piscine de 3 mètres de profondeur, hein. Tu sais, une piscine olympique, 50 mètres, 3 mètres de fond, piscine hyper impressionnante dans laquelle tu peux pas apprendre à nager, en fait. T'as peur, si tu sais pas nager. Voilà. Et puis, après, il y a eu des arguments pathétiques. Je vais peut-être laisser Yvan les dire, les murs pas porteurs, tout ça.
Oui, ouais. Et surtout, on nous a dit, enfin, on a été prévenus très tard de ce projet. Les jardiniers ont été prévenus très très tard du projet, en fait, vraiment à la dernière minute.
Mais ils étaient dissociés, le projet de la gare, c'était autre chose, c'était déjà lancé, ça.
Le projet de la gare, il est plus tardif, en fait. Le chantier de la gare devrait démarrer en 2024.
Donc
moment, la gare est planifiée, mais elle n'est pas encore.
Elle ne sera pas là pour les Jeux Olympiques.
Elle ne sera pas là pour les Jeux Olympiques, non. pour la piscine, en tout cas, les jardiniers ont été prévenus très tard, et donc nous aussi. Et bien sûr, le premier argument, c'était c'est trop tard, les Jeux Olympiques de 2024 arrivent, donc on doit construire cette piscine. Maintenant, le projet a été signé, enfin, on peut plus rien changer. Donc, argument d'autorité, c'était aussi mais c'est pas moi, c'est le préfet. Pour le préfet, il disait mais non, c'est la maire d'Aubervilliers. Anne Hidalgo, régulièrement, a redit que c'était la maire d'Aubervilliers aussi qui était responsable de ce projet. Donc, elle-même dit que c'est les Jeux Olympiques. Enfin voilà, chacun se renvoie la balle. C'est une façon.
Anne Hidalgo a même le culot de dire que ce n'est pas un projet olympique. Mais moi, je voudrais juste lui répondre, si c'était pas un projet olympique, tous les jugements, toutes les audiences qu'on a eues n'auraient jamais été à la Cour d'appel administrative de Paris, qui est compétente pour les équipements des JO. Ils auraient été jugés à Montreuil, qui est notre tribunal administratif de proximité. Donc voilà, elle ment.
Ah oui, mais. Alors, donc, là, parce que là aussi, c'est passionnant, hein, vous établissez très bien les rapports de force. C'est-à-dire qu'on voit très bien quels sont les décideurs et les élus qui sont partie prenante de ce projet. C'est même très, très étonnant, parce que politiquement, on le trouve un peu de tout, quoi. Il y a le préfet qui joue un rôle important. Il y a évidemment la présidente de la région, déjà, qui est candidate au présidentiel aujourd'hui. Bon, il y a Anne Hidalgo, on vient de le dire. Il y a le président de Paris 2024. Il y a la ministre des Sports. Bon. Et tous ces gens-là, l'architecte de la piscine, tous ces gens-là, vous les avez rencontrés, vous avez pu discuter ou pas du tout ?
On en a rencontré beaucoup, hein, beaucoup, et certains plusieurs fois.
On a rencontré Tony Estanguet, qui préside le comité olympique, et qui nous a dit, mais nous on apporte effectivement les fonds pour cette piscine, c'est un projet, c'est un héritage en fait. Qui est bon, c'est plutôt bien d'apporter un nouvel équipement de piscine en Seine-Saint-Denis, parce que c'est effectivement il y a des gros manques sur ce sujet-là, et simplement, enfin, le fait qu'on puisse faire autrement, qu'on puisse construire cette piscine différemment sur des terrains déjà artificialisés, ça, là-dessus, lui n'avait aucun argument à nous opposer. En fait, il nous renvoyait vraiment à la mairie d'Aubervilliers, qui est maître d'ouvrage du projet.
Et la maire d'Aubervilliers, c'est une nouvelle maire ou...
Oui, c'est une nouvelle maire, en fait. C'est elle se réfugie derrière le fait que la maire de la mandature précédente, qui est une maire communiste, a signé l'attribution du projet donc, à Spi-Batignol, il faut les nommer, et le cabinet d'architecte Chabanne. Donc tous ces gens-là sont coupables. Hein. Ils sont tous coupables d'écocide. Et ils ont tous participé à la destruction des 4000 mètres carrés qui ont été excavés de, en gros, 3-4 mètres de profondeur sur des terres qui sont magnifiques. Hein. Il faut savoir que le, les jardins des vertus...
Que ce soit clair, là, il y a 4000 mètres carrés qui ont été...
Excavés.
Excavés, carrément.
Qui ont été excavés et sur des couches humifères d'environ 80 cm. Donc de la terre, moi je cultive, hein, donc je sais, c'est de la terre où ça, les, ça pousse très très bien. C'est de la très belle terre. Donc ils ont excavé les 4000... Et là, maintenant, il y a eu un communiqué de la maire d'Aubervilliers et de Hanotin, le président de Plenco, pour dire qu'ils allaient, qu'ils arrêtaient, parce que le juge avait dit qu'il fallait arrêter. Il aura fallu qu'on aille quand même loin pour les faire arrêter. Et qu'ils allaient reconstituer, remettre en état. Et là, on voudrait bien être reçus. On demande à être reçus, nous, par la maire et monsieur Hanotin, parce qu'on voudrait bien qu'ils nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire remettre en état. Et là, à l'heure où je vous parle, hier, à la même heure à peu près, j'étais sur les jardins. Donc je grimpe sur la palissade et je fais des petites vidéos tous les jours ou tous les deux jours pour montrer que, en fait, ils n'ont pas arrêté. Ils continuent à faire des choses. Je ne sais pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font. Hier, il y avait plein d'eau. Les bétonnières sont en route. Alors c'est sûr, ils ne sont plus à du 6h, 22h. Hein. Mais ils sont quelques heures dans la journée. Hier, il y avait plein d'ouvriers. Et on voudrait qu'on nous explique ce qu'ils font.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'ils vont remettre en état ? Est-ce que, parce qu'il y a ces histoires de fontis. Il y a des trous, en fait. Le sous-sol est plein de trous, là-bas. C'est un sous-sol marécageux où il y a eu des trous. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est assez fertile. Et ils parlent de ces fontis dans le communiqué de presse. Mais on voudrait savoir ce qu'ils vont mettre dans ces fontis. Moi, je pense qu'ils ont déjà mis du béton et qu'ils sont en train d'en remettre. Et on ne veut pas nous le dire, en fait.
Des terres excavées. Parfois, en ce moment, ils essayent de remplir avec... Des terres excavées du Grand Paris.
Du Grand Paris, oui, on pense que ça c'est possible, mais on voudrait qu'on nous le dise.
Ouais, qu'on vous explique.
Voilà, qu'on nous dise ce qu'ils font. On estime qu'on a gagné et que maintenant on nous doit la vérité, quoi, sur ce qu'ils sont en train de faire.
Et alors, dans les autres parcelles, les jardiniers continuent à travailler ?
Oui.
Oui, bien
ouais,
sûr.
Ouais, ouais. Les jardiniers,
il faut, hein, printemps, absolument. Il faut. En plus, c'est sûr. La saison.
mais d'ailleurs, pendant toute l'occupation, parce qu'on a occupé 4 mois, on a cultivé.
D'accord.
Quand on a été évacué début septembre, le 2, ils ont rasé et détruit nos champs de courges, de courgettes, de tomates. Ils ont arraché les arbres comme des fétus de paille.
Et est-ce que vous avez été en contact avec d'autres mouvements de contestation pour les JO 24 dans cette même région de l'Île-de-France, Yvan?
Oui, je pense que tous les collectifs sont assez associés. Enfin, pour les JO, effectivement, il y a pas mal de personnes qui sont contre les JO, qui nous ont aidés, qui sont venus dans le collectif. Et puis, il y a d'autres collectifs, notamment le collectif de Gonesse qui essaye de protéger aussi les terres du triangle de Gonesse, qui s'implique, enfin, qui est en lien avec nous aussi. Enfin, les collectifs sont assez imbriqués entre eux et s'entraident, et heureusement, parce que ça permet aussi d'avoir... mobilisation plus importante.
Alors, il faut quand même des compétences juridiques, peut-être, Dolores, quand on commence à vouloir contester une décision aussi importante qu'un PLUI. Est-ce que là, il faut savoir comment se fait un recours, comment il faut des avocats, tout ça ou...
Oui, on a des avocats. On est assez bardés d'avocats, en fait. Et puis, on a appris sur le tas avec nos avocats, en fait. Et maintenant, c'est plein de choses, en fait. On ne le savait pas au départ. On a un peu erré, hein. On n'a pas eu les bons avocats au départ. Maintenant, on a les bons avocats. On a un très bon avocat que je vais citer, qui est Pierre Eddy. Et vraiment, on le remercie, parce que c'est un type extraordinaire. Et voilà. Je souhaiterais compléter sur la porosité entre les collectifs et les militants, entre les différents collectifs. Le week-end prochain, au VET, à Besançon, qui est aussi un jardin en lutte, vont se tenir des assises ou un regroupement de tous les jardins en lutte. Et ça va faire notre force. D'abord, nous, on a gagné, donc... c'est un message fort pour tous les autres jardins en lutte.
Si ça fait jurisprudence, c'est excellent.
Ouais, ou tous les autres jardins qu'on voudrait détruire. Et donc là, il va y avoir les jardins joyeux, des jardins de Lille, les Vêtes à Besançon, les Lentillères, enfin, énormément de jardins. On va se mettre tous ensemble et on va être plus forts ensemble.
C'est dans tout le mouvement qui s'appelle soulèvement des terres.
Alors il y a ça aussi, on est aussi là-dedans. Mais sur un mouvement jardin, en fait. Parce que les soulèvements de la terre, il y a aussi toutes les terres agricoles.
Donc ce sont
qui
des
sont
jades.
Hein des jades, voilà.
Jardins
des jardins
à défendre.
Défendre. Voilà.
Bella Stock, on peut être que d'accord avec les jardins à défendre. Ah, Antoine.
Ben, oui, on nous a proposé de partir sur le projet à Aubervilliers et d'un commun accord, parce que comme on est donc maintenant une société coopérative, on essaye d'avoir l'avis de l'ensemble de l'équipe, et c'était niette de participer à un projet pareil. Donc on partage et on soutient ce genre d'action. Et c'est pour ça d'ailleurs que les projets, on essaye au maximum de les ouvrir, comme on voyait tout à l'heure.
Exactement, bien sûr.
Il faut donner les clés de compréhension, ça permet que les projets soient partagés, qu'ils soient partagés avec les usagers.
Alors là, pour l'instant, Yvan, le jardinier, c'est qui c'est un habitant d'Aubervilliers qui loue une parcelle à la ville ou à la société, mais ça s'appelle société. Hein.
Les jardiniers qui sont présents, il y a à peu près 80 parcelles sur les jardins. Et il y a beaucoup de personnes à la retraite, d'anciens ouvriers, il y a encore des ouvriers, en fait, à Aubervilliers. C'est des classes, à la fois des classes très populaires, et puis des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent et qui viennent plutôt de Paris et qui viennent habiter à Aubervilliers et qui arrivent aussi. Donc il y a une vraie mixité, en fait, qui se fait via ces jardins. Et d'ailleurs, chez les urbanistes, on sait que les jardins, globalement, faire des jardins partagés ou des jardins, ce type de jardin permet de créer de la mixité, qui est souvent quelque chose qu'on recherche dans les quartiers populaires. Donc c'est plutôt positif.
Oui, parce qu'on sait que c'est à la fois un complément du salaire, puisque c'est aussi une production qu'on va manger, qu'on va donner, qu'on va partager, etc.
C'est
bien sûr.
Beaucoup plus qu'un complément. Pour certaines familles qui sont dans ces jardins,
c'est essentiel, quoi.
C'est essentiel pour se nourrir. Pendant le confinement de 2020, le préfet de Saint-Denis a prévenu l'État, a dit avoir peur qu'il y ait des émeutes de la faim en Seine-Saint-Denis. C'est pas anodin du tout. Des émeutes de la faim en France, on n'en a pas vu depuis longtemps.
Ah oui, non, mais on parle du reste de déficit alimentaire pour des tas de régions, de la même manière qu'il y avait des zones blanches pour l'équipement numérique. Hein, on a le même problème. Ou alors le désert médical. Donc il y a des déserts alimentaires maintenant et il faut les avoir effectivement en tête. Et le jardin ouvrier, en plus, c'est quand même cette longue histoire que Dolorès racontait. 1935, c'est quand même pas hier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est pérennisé dans le temps, qui s'est conforté et qui appartient au paysage. La notion de paysage urbain, Antoine, c'est un des éléments de la transition écologique.
Oui, bien sûr. Bah, si je peux reprendre l'idée de ce jardin, par exemple dans les projets en rue, quand on se met une zone avec une zone atelier, une zone de stock plutôt logistique, et systématiquement on y adosse un jardin ouvert au public et on met en œuvre les prototypes qu'on réalise en réemploi, et le jardin on le crée avec les habitants. Donc là, dans la cité Yuri Gagarine à Romainville, on vient de rencontrer le collectif habitant qui va jardiner tout autour de la plateforme Réemploi pour que ça soit aussi un lieu partagé et qu'il y ait cette dimension de convivialité dont vous parliez.
Il n'y a pas de projet de ferme urbaine ?
Dans ces jardins, non. Actuellement, non. C'est vraiment des petites parcelles. Pas si petites que ça, en fait. Hein. Certaines peuvent faire 300, 400 mètres carrés.
Oui, mais 300 mètres carrés, c'est beaucoup,
Oui, absolument. C'est beaucoup de travail aussi, en fait, on ne se rend pas compte.
Mais c'est ce que j'ai dit dans mon édito. Le jardin, il réclame beaucoup d'attention.
Et
souvent, même selon les aléas climatiques, il suffit qu'il y ait un coup de froid maintenant, là, dans quelques jours, et ensuite une canicule ou deux pour que la récolte soit pas terrible.
Oui, et il y a une sécheresse, là, au mois de mars. On a eu un mois de mars sans giboulier. Donc, c'est assez...
Et est-ce que dans la foulée, il va y avoir des demandes de plantation d'arbres, de vergers, d'agrandissement d'autres parcelles, etc.
Dans la remise en état dont a parlé Dolorès, c'est ce qui devrait avoir lieu. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle va être cette remise en état, mais il y a eu pas mal d'arbres coupés, effectivement. Donc ce qu'on va demander, c'est qu'il y ait des arbres à nouveau replantés et des jardins reconstitués, absolument.
Parce qu'Aubervilliers a quand même le triste résultat de 1 mètre carré 42 d'espace vert par habitant. C'est quand même...
C'est très très faible.
C'est quand même très faible.
On sent cette nécessité de respirer en ville. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose dans l'ensemble de la métropole du Grand Paris, en fait. C'est pas uniquement à Aubervilliers. On sent cette densité, cette volonté de densifier. Depuis une dizaine d'années, en fait, on aménage des, des projets un peu partout de densification, sachant qu'on peut de moins en moins étaler la ville. Mais cette densification est aussi très problématique aujourd'hui. Ou elle est en tout cas, elle est sans doute très mal faite, parce qu'à chaque fois, c'est des gros projets qui viennent et on n'est pas du tout sur de l'acupuncture urbaine.
Quand on regarde dans le détail, il y a beaucoup de projets qui sont des enclaves résidentielles sécurisées pour la middle class. Donc c'est aussi des éléments qui ne s'intègrent pas à l'ensemble de la ville et qui ne font pas ville. Donc c'est une densification. Quand je disais ça tout à l'heure, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a vraiment une réduction des espaces verts et puis il y a un bétonnage, quoi. Parce qu'on n'expérimente pas, on ne va pas non plus expérimenter une architecture en terre, paille et bois, par exemple, hein, ou très très faiblement. Non.
Oui, très peu. Je ne sais pas si tu veux répondre, Yvan.
Là, dans l'éco-quartier en question, du fort d'Aubervilliers, il n'y a aucun projet en terre, en paille ou en bois. Alors, on nous propose du béton soi-disant bas carbone, mais on sait très bien que le béton bas carbone n'existe pas en réalité. Il suffit de chercher un petit peu sur Internet, parce que l'explication est compliquée, mais le béton bas carbone n'est pas du tout bas carbone.
C'est du marketing.
C'est du marketing, absolument.
Merci beaucoup. Bon courage.
Merci.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.